Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Bad Karma et avec moi, je suis avec Giscal. Bonjour Giscal, comment vas-tu?
Salut Bad Karma, salut tout le monde.
Alors, on est là pour la review de TLC, le dernier pay-per-view de l'année de la WWE. Déjà, Giscal, tu l'as regardé en direct, en différé, un peu des deux?
Un petit peu des deux. J'ai regardé le pré-show, j'ai regardé le kick-off et je suis allé jusqu'où? Je sais plus jusqu'où je suis allé avec vous, mais peut-être jusqu'à 1h30 du mat, un truc comme ça. Donc ça nous a emmené jusqu'au peut-être aux 4 premiers matchs. Ouais. Puis après j'ai regardé le reste tranquillement sur le network ce matin.
Eh ben écoute, t'as été peut-être plus sage que moi parce que moi j'ai tout regardé en direct.
Je fais plus ça.
Mais honnêtement, moi je l'ai regardé sur AB1. Du coup, avec les copains Ajus et Chéro, s'ils nous écoutent, on les embrasse.
Oui.
Et ça faisait bien plaisir. Et donc, on a quand même un gros programme chargé sur ce TLC, ouais. Puisqu'il y avait pas moins de 12 matchs annoncés et qu'il y a eu 12 matchs au total. Il n'y a pas eu de.
Pas eu d'arnaque.
Pas eu d'arnaque, on a eu les 12.
Alors, on a eu semi-arnaque sur un, mais.
Ouais. on va en parler un peu plus tard. Ouais. Alors, on était à San José en Californie. Et on va commencer tout de suite le kick-off, vu que je sais que tu l'as regardé. On en avait discuté sur le Discord de Catch-Up. Et le kick-off, ça commence avec un Cruiserweight Championship match entre Cédric Alexander, le challenger, et Buddy Murphy, le champion. Alors, c'est un match qu'on a déjà vu plusieurs fois hein, chez les Cruisers, Murphy contre Alexander. Mais c'est un match qui est toujours plaisant à voir parce que c'est une opposition de style. On a Murphy qui est plus costaud, qui est plus brutal, qui a des coups un peu plus stiff, et Alexander qui virevolte un peu plus, qui a des coups qui sont un peu plus spectaculaires. Je pense par exemple à son flatliner où il prend appui sur une corde, en fait, entre les cordes. Il passe entre les cordes, il prend appui sur la corde du bas et il va faire un flatliner à la volée comme ça. C'est toujours assez sympathique à voir. Et là, on a eu un match qui a été quand même assez disputé, même s'il a été court. Je crois qu'il a duré moins de 10 minutes. Mais tout le monde a eu sa chance, notamment sur un lumbar check de Alexander. Amir Lamar, si tu nous écoutes, ça c'était pour toi la dédicace. C'est un lumbar check, son finisher. Mais voilà, Murphy met le pied sur la corde pour casser le compte. Honnêtement, j'avais vu qu'il était proche des cordes, mais je me suis dit, ah, il peut gagner quand même, Alexander. Bon. Murphy reprend son souffle. Il repousse Alexander dans le coin, un super kick dans la tête, un running knee et le Murphy Law, le finisher. 1, 2, 3, victoire de Buddy Murphy qui conserve sa ceinture violette dans un match que moi j'ai plutôt bien apprécié. Et toi, Giscal?
Écoute, ouais, j'ai plutôt bien apprécié. J'avais commenté, c'est vrai, pour ceux qui étaient sur le Discord hier soir avec nous. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'avenir, hein, rejoignez le Discord pour suivre peut-être les pay-per-view en live ou les débuts de pay-per-view en live avec nous. Mais ouais, j'avais dit que j'avais pas trouvé ça foufou. Je maintiens un peu, même si avec le recul, c'est vrai que c'était quand même un bon match. C'était même un très bon match. Ils ont bien fait le taf en pré-show. J'ai pas été aussi enflammé que pour leurs derniers affrontements ou par exemple pour le match Survivor Series, mais c'est vrai qu'ils ont fait le taf. Ils maîtrisent bien ce format de match très court en sprint pur là d'une dizaine de minutes maximum où ils enchaînent, ça monte jusqu'au finish. Donc ils essayent toujours de faire de monter en intensité sur leur move, et c'est vrai que tu vois des trucs que tu vois pas dans les autres matchs, le Michinoku Driver, tu l'as dit, le Flatliner, tous ces finishers un peu aériens qu'ils ont. Donc écoute, c'est super plaisant à suivre en pré-show, et ça a bien, je trouve qu'ils ont bien réveillé la foule. C'est pas facile hein, de débuter en pré-show comme ça devant souvent des gens qui arrivent dans les gradins.
Ouais.
Donc ils ont fait un bon boulot, un petit regret quand même, parce que c'est vrai que vu la qualité du match, je trouve que ça aurait pas fait tâche dans la carte principale, mais bon.
Et tout à fait. Alors, je suis entièrement d'accord, ça n'aurait pas fait tâche dans la carte principale, surtout au vu de certains matchs qu'on a eu en carte principale, mais bon, on reparlera de ces matchs après. Je te rejoins sur le fait qu'effectivement, c'était un match correct. Hein. Moi, c'est ce que je disais, il n'est pas foufou parce qu'ils avaient 10 minutes. Voilà. Et 10 minutes en kick-off, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec. Puis, t'as le public qui s'est bien chauffé. Hein. Il y a eu des chants 205, 205, 205 quasiment tout le match. Les deux ont une bonne alchimie dans le ring, ça se sent aussi. Franchement, ouais. Dernière fois que c'était affronté, c'était pas à Survivor Series, vu que c'était Mustafa Ali, je crois, qui avait affronté Murphy, mais c'était au Super Showdown en Australie. Et où là, vous avez eu un match d'anthologie avec une durée qui était assez monumentale pour des cruisers dans un show comme ça. Mais ouais, un bon petit opener de kick-off, ça fait toujours plaisir. La suite, on pouvait se dire, bah, ça commence bien, ça devrait bien continuer. Et bah la suite justement, donc on nous apprend, donc il y a des, comme d'habitude en kick-off, il y a des petits segments backstage, les gens qui disent ouais, je vais gagner ce soir, ou je suis le meilleur, enfin les choses habituelles, hein, vous connaissez tous, on va pas vous détailler ça. Il y a juste, comme d'habitude, depuis quelques semaines, Baron Corbin qui dit que Strowman, de toute façon, ne sera pas là. Donc, il va gagner par forfait, comme il l'avait annoncé à Raw, comme il l'avait déjà dit plusieurs fois. Mais il reste du temps dans le kick-off. Et dans ce kick-off, il y a un deuxième match, un ladder match entre Bobby Lashley et Elias. Bobby Lashley accompagné de son Man of the Hour, alias Leo Rush. Alors la stipulation avait été un peu changée parce qu'à l'origine il me semble qu'ils avaient dit qu'il fallait décrocher la guitare et tabasser l'autre avec pour gagner.
Ouais, alors en fait c'était oui d'une certaine manière c'est ça, et je pense qu'ils avaient dit que grosso modo le premier qui décroche la guitare aura le droit de s'en servir quoi. C'était un peu ça.
Ça devait amener un tombé classique, une soumission classique, mais là du coup en fait peut-être parce que ils l'ont déplacé en kick-off, hein, et ils ont peut-être décidé de le raccourcir en disant bon bah finalement c'est celui qui décroche la guitare qui gagne. Et donc du coup on a un match d'échelle où les échelles étaient un peu anecdotiques, j'ai l'impression. Les moments où ils les ont utilisées, elles m'ont pas marqué, mais il y a quand même des spots je vais dire intéressant en étant un peu gentil, notamment quand Bobby Lashley fait un Dominator à une échelle et la balance sur Elias. C'est peut-être le spot le plus marquant. Leo Rush qui a essayé d'empêcher Elias de monter, comme tout bon manager heel qui se respecte. Et au final, Elias réussit quand même à décrocher sa guitare, à gagner le combat. Il s'apprête à s'en servir sur Bobby Lashley sur Leo Rush, mais... le duo l'arrête et c'est finalement lui qui voit la guitare se briser sur son dos d'un gros coup de la part de Lashley, accompagné d'un frog splash de Leo Rush pour finir en beauté.
Yes.
Ouais. Alors, ton avis sur ce match qui, moi personnellement, je vais pas le cacher, m'a pas marqué plus que ça.
Non, bon, l'inverse aurait été surprenant quand même. Je pense qu'il a pas dû marquer grand monde. Enfin, peut-être, hein, je sais pas, les auditeurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que Ringside avait, je crois, dit sur le Discord au moment du match que c'était un des pires ladder matchs de l'histoire. Bon, je sais pas parce que j'ai pas vu tous les ladder matchs de l'histoire, alors je me garderai bien d'un tel jugement définitif. Mais en tout cas, de mémoire récente, je pense que c'était sans doute un des moins agréables à regarder. C'est vrai, tu l'as dit, les échelles étaient reléguées au rang d'accessoires de décoration très anecdotiques. Ils ne se sont pas du tout servis de la stipulation. C'était lent. C'était pas à l'image du pay-per-view et d'un ladder match. Quoi. Tu t'attends à un truc violent, à quelques petites innovations. Et là, il n'y a rien eu. On avait l'impression de regarder un match de milieu de Raw un peu lent, mais avec des échelles autour. Donc ouais, c'est un peu dommage parce que j'étais surpris de voir ce match en kick-off, mais je me disais bon, écoute, pourquoi pas, ils vont avoir un petit peu moins de pression et puis ils vont pouvoir, peut-être qu'Ilias va pouvoir se lâcher et puis ils vont pouvoir utiliser un petit peu du temps d'antenne en pré-show. Mais ils l'ont pas trop fait, donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand même parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on se dit que bon bah oui, c'est pas mal, mais c'est pas fou non plus. Ça reste un peu mou du genou cette rivalité.
Ouais.
Et puis ce résultat un poil feignant quand même, hein, c'est vrai. Bon bah d'un côté on donne la victoire à Elias, mais en même temps on donne le beatdown à Lashley. Bon, Ça fait un petit peu, pour l'instant, on ne sait pas trop à quel saint à se vouer. On va continuer comme ça, puis on verra bien où ça nous emporte. Bon, c'était pas bien foufou, quoi.
Ouais. En y repensant, là, je me souviens, à un moment, il y a Elias, je crois, qui tente une powerbomb, enfin, qui fait une powerbomb à Ashley sur une échelle.
Oui.
L'échelle n'a pas plié. D'habitude, quand ils font ça, l'échelle, elle plie.
Oui,
là,
c'est
elle
vrai
est restée nette. Hein.
C'est vrai que c'était une échelle assez costaud. Ouais.
Ouais, je me suis dit, mais ouais, je crois que je l'ai sorti sur le Discord en plus.
Oui.
Bah, ils sont renforcés les échelles ou quoi cette année?
Alors après, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas bien porté la prise sur le point de flexion de l'échelle, parce que parfois elles sont fragilisées à certains endroits et pas d'autres. Alors je
ouais,
sais
c'est
pas.
Possible.
Écoute, visuellement, c'était pas ouf du coup.
Mais bon, toujours est-il que cela concluait la partie catch du kick-off. Il y avait toujours les discussions habituelles sur pour hyper les matchs du show principal. Ça faisait plaisir de voir un peu le panel aussi. Ça faisait un moment que je les avais pas vus. Enfin, j'avais pas regardé les kick-offs ces derniers temps. J'avais regardé que les matchs. Et là, ça faisait plaisir de voir un petit peu Booker T, David Otunga et les autres qui racontaient.
Ouais, bah, toujours marrant Booker T. Ouais.
qui nous hypait autant que possible le show, quoi. Ils ont fait leur taf et c'était plutôt bien de leur part. Donc ça. Ouais, c'était un point positif du kick-off. Mais
je suis bien
le
d'accord.
Kick-off, ça ne fait pas un pay-per-view. Et maintenant, on va entrer dans le gros de la carte. Il y a quand même 10 matchs sur cette carte principale. Certains qui, en plus, avec des stipulations, qui peuvent penser que ça va durer longtemps.
Oui.
Mais pas celle-là. Le premier match, c'est la finale du Mixed Match Challenge entre The Fabulous Truth, Carmella et R-Truth, contre Maalicia, Jinder Mahal, Alicia Fox. La petite stipulation qui fait plaisir, les vainqueurs auront la 30e place au Royal Rumble match et
ouais.
Des vacances tout frais payés aux frais de la fédération.
Ouais.
Alors, c'est un match comédie, hein, on va pas se mentir. C'est,
oui,
c'était divertissant. Je pense que c'était le bon moment. Alors, je pense qu'ils avaient deux places possibles pour ce match. Le tout début du show ou le milieu de show pour détendre un peu l'atmosphère
après un
gros match. Mais là moi j'ai vu un match correct, hein, R-Truth qui est affûté physiquement, qui a porté des coups assez sympa, bah pour un gars de 46 ans, je crois il est pas tout jeune, hein.
Il a 46 ans, R-Truth, ouais, c'est impressionnant.
Son corkscrew elbow par exemple, c'est toujours sympathique. Jinder Mahal a été stiff, comme d'habitude, dans son style. Mais c'est les filles qu'on a surtout vues dans ce match, Carmella et Alicia Fox. Et c'est d'ailleurs elle qui conclut le match, puisque Carmella bloque un tombé d'Alicia Fox et la renverse dans sa soumission, le Code of Silence, pour la faire taper. D'ailleurs, Alicia Fox a tapé très très vite, hein, elle ne voulait pas souffrir. Et donc c'est la victoire des Face qui gagne une place assurée au Rumble, la dernière place en plus, et des vacances tout frais payées. Alors avant de te laisser analyser un petit peu, je vais revenir sur cette histoire de vacances tout frais payées, parce que bien évidemment on se demandait, mais du coup où est-ce qu'ils vont partir, qu'est-ce qu'ils vont faire, et en fait il fallait qu'ils disent leur destination avant le show. Carmella, elle panique parce que mais on ne savait pas comment ça se fait et tout. Et R-Truth qui dit non mais t'inquiète pas, j'ai pris les devants, je sais où on va. Donc Carmella s'en bat là. Est-ce que c'est Barcelone, est-ce que c'est Rome, est-ce que c'est Paris, est-ce que c'est Paris, est-ce que c'est un autre endroit super. R-Truth qui fait monter l'hype pour finalement révéler qu'ils iront à Stanford dans le Connecticut au siège social de la WWE. En gros, ils vont prendre des vacances au boulot.
C'est ça.
Voilà. Bon.
C'était la petite vanne de fin de fin d'angle qui prévoit, enfin qui augure, je pense, d'un truc assez, sans doute d'une petite vignette vidéo à SmackDown assez fun dans les semaines à venir.
Ouais.
Mais sinon, écoute, au-delà de ça, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'était le moment idéal pour mettre ce match soit là, soit en milieu d'émission. Mais là, je trouvais que c'était vraiment parfait parce que ils ont le capital sympathie nécessaire, ils ont l'énergie pour. Donc je trouve que c'était un opener qui était on va pas en faire des caisses non plus, mais je trouve que c'était un bon opener. Tu vois, ça met la patate, ça met le sourire. Jinder Mahal, Alicia Fox, évidemment, c'est pas l'équipe qui m'enflamme le plus, mais en tout cas, Arthrus et Carmella, moi, ils m'amusent beaucoup.
Ouais.
Je trouve qu'ils ont pas abusé de leur temps, comme on peut dire, comme on dit parfois. C'était 5 minutes, c'était bien, c'était rigolo, c'était ce qu'il fallait. Et les bons vainqueurs. Moi, je continue quand même à regretter un petit peu cette stipulation. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve que cette stipulation est un peu dommage de spoiler un truc qui fait aussi un peu le sel du Rumble, quoi, d'avoir le 30e entrant. Bah, du coup, il y aura pas ce petit frisson parce que du coup, on saura qui c'est. Et puis, en plus, c'est pas non plus des catcheurs à très haut profil. Donc, je suis un peu déçu de ça. Mais bon, écoute, au-delà de ça, voilà, ce tournoi était rigolo. Cette équipe fonctionne bien. Donc moi ça m'allait pour commencer ce pay-per-view.
Ouais. Bah écoute, moi aussi j'étais plutôt content du match, hein. Franchement, c'était un moment où bah justement on sortait un peu d'une déception entre guillemets avec le ladder match qui était un peu qui nous avait laissé un peu sur notre faim. Et là, bon bah moment de légèreté totale, un petit dance break en plein milieu du match comme prévu. Les frères Singh qui décident de s'incruster dans le dance break et qui dansent à l'indienne, c'était bien marrant aussi. Je trouvais que les six personnes avaient une bonne alchimie ensemble et le public l'a bien ressenti aussi, j'ai l'impression, parce que ils ont dit bon bah c'est un match fun, il y a des gentils entre guillemets, il y a des méchants entre guillemets, mais bah, en fait on aime bien tout le monde. Ils sont pas c'était un match pas gênant. Donc je pense que même si c'était Mal et Alicia Fox qui avaient gagné, il n'y aurait pas forcément eu une grosse bronca, etc. Le public aurait été content pour eux, quoi.
Ah ouais, tout à fait, ouais, je pense. Ouais, ouais.
Et je pense que c'est le principe du Mixed Match Challenge qui, du coup, fait qu'on s'intéresse plus aux interactions entre les membres des équipes qu'au catch en lui-même, parce que c'est des matchs qui sont sympathiques, mais qui souvent, vu la composition des équipes, vu les forfaits de dernière minute qui ont été plus... Cette année, c'était impressionnant le nombre de changements d'équipe qu'il y a dû y avoir. Là, ils ont pris ça à la rigolade, ils se sont fait plaisir, et ben ils nous ont fait plaisir aussi.
C'est ça.
Et quant au cadeau des vainqueurs, bon, forcément la blague, effectivement, R-Truth qui, comme d'habitude, n'a pas bien compris. Les vacances, on va les passer à Stanford. voilà. Bon,
ouais, moi, ça me fait toujours marrer. Moi, il me fait marrer.
Moi aussi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et là, par contre, c'est l'autre cadeau. Là, je ne sais pas si tu suis les rumeurs, si tu suis les annonces un peu smart qu'on peut avoir de temps en temps sur les sites de catch. Mais
non, pas du tout.
Il se murmurait, si tu me permets de te spoiler un petit peu, peut-être.
Ah, vas-y.
Il se murmurait qu'en fait, ce cadeau ne serait pas respecté. Parce que Vince aurait des gros projets, notamment pour le Rumble masculin, et que du coup, R-Truth se ferait squeezer sa place de 30e.
Mon Dieu.
Après, c'est une rumeur, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. On verra bien le 27 janvier prochain pour le Royal Rumble. Mais il est possible que Truth n'entre pas 30e ou alors qu'il essaie d'entrer 30e chez les filles parce qu'il n'aura pas compris.
D'accord, ok. Bon, bah écoute, on va voir. Alors, on va voir.
Voilà, affaire à suivre. Hein, il va falloir. Ça va être la grosse storyline du mois de janvier. On va avoir la montée vers le Rumble. Donc moi j'ai hâte de voir ça et voir du coup comment ils vont tourner cette histoire de 30e place ou pas.
Ouais, complètement.
Alors, après ce moment de légèreté qui, honnêtement, je pense, faut vraiment être le dernier des smarts pour pas aimer ce match, on va arriver à un gros morceau, un sacré morceau quand même, le SmackDown Tag Team Championship. Une triple frite, rien de moins que ça, entre The New Day, qui sera représenté par Xavier Woods et Kofi Kingston, les Uso et The Bar, les champions. Alors, il n'y a pas la stipulation Tornado, ce qui fait qu'en fait, il n'y a que deux équipes à la fois dans le ring, et la troisième doit réussir à se taguer pour rentrer dans le match. C'est la stipulation un peu bordel. C'est toujours dur à suivre qui a fait le tag ou pas. L'arbitre a été assez moyen sur le match. Il y a des moments où on faisait des comptés sur des gars qui n'étaient pas légaux si on avait bien suivi les tags. Mais bon, c'était un peu compliqué pour tout le monde. Il y a eu des spots, les spots habituels qu'on peut voir. Kofi qui se lance de la troisième corde en saut de la foi sur tout le monde. Cesaro qui intercepte un topé suicida avec une manchette à l'européenne. Bien porté sur l'un des frères Uso, je ne sais plus si c'était Jay ou Jimmy. Et un alley-oop sur Xavier Woods, c'est violent. Hein. Je l'ai vu, l'impact, il est bien pris. Mais tout ça n'empêche pas le final, le bro kick final de Sheamus, le guerrier Celt, qui fait le tomber sur Xavier Woods. Et les champions gardent leur titre sur ce qui était peut-être l'un des matchs les plus indécis, du moins au point de vue de la carte avant le pay-per-view. Je sais que moi, j'avais hésité dans mes pronos à dire qui allait gagner. Bah, j'avais mis sur les Usos, j'ai perdu.
Ouais, il était pas simple ce match. On en avait pas mal parlé lors du dernier SmackDown. Comme quoi, il y avait un truc qui était assez enthousiasmant dans ce match, et c'est un commentaire qu'on pourra faire aussi. Un autre match qui est en fin de soirée, mais c'est que en fait les trois équipes étaient legit en fait. Donc c'était dans une situation où tu te dis bah finalement tout le monde peut gagner. Et puis bah c'est pas mal quand ça se passe comme ça. Donc du coup ça te donne un truc qui est complètement en effet indécis comme tu dis.
Ouais.
Mais qu'on n'est pas moins super super plaisant à regarder. Et c'est ce qui s'est passé. Je trouve que les tech teams de SmackDown ont encore fait un très très gros boulot. The Bar, finalement, je leur donnais pas une durée de vie fantastique après s'être séparé du Big Show. Et puis avec les semaines et puis les voir reprendre un peu du poil de la bête à SmackDown, je me suis dit finalement peut-être qu'ils pouvaient peut-être encore garder un petit peu la ceinture un petit moment. Est-ce que les Usos pourraient pas la prendre un peu plus tard pendant la saison de WrestleMania? C'est finalement ce qui s'est passé, mais franchement, ça aurait pu aller dans les deux sens.
Ah, c'est ça. Je suis d'accord avec toi sur ce point.
Ouais. Et puis, écoute, voilà, encore une fois, une démonstration, je trouve, de ce qu'il faut faire en triple threat par équipe. Pourtant, c'est pas une stipulation que j'adore quand une équipe est donc je sais pas comment ils appellent ça vraiment, mais une équipe est hors du ring en fait et doit se taguer elle-même. Je trouve que c'est un poil moins dynamique, mais écoute, je trouve que là, ils ont fait quelque chose d'assez propre à ce niveau-là. C'était assez agréable à suivre.
Il y a juste l'arbitre qui a été un peu en dessous. Comme je disais, il a un moment, il n'avait pas vu les tags, ou alors il avait cru que les tags n'avaient pas été faits. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour l'arbitre, mais là, il a un peu raté son match, lui.
Ouais, un petit peu, c'est vrai.
Bon, après, je vais quand même être indulgent. Hein. C'est une stipulation qui n'est pas simple à arbitrer non plus, parce que faut que tu gardes l'œil, non pas sur 4 gars, mais sur 6 gars, et tu dois vérifier qu'il y en a 2 qui ne se taguent pas sans prévenir sur une autre équipe. Donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que je préfère quand il y a des triple threat tag team, les trois équipes sont dans le ring, soit ils les mettent en tornado, et tout le monde peut taper tout le monde, peut faire
le tornado, c'est sympa aussi. Ouais,
et voilà, mais ils s'en sont bien sortis, honnêtement. De toute façon, comme le disaient les copains Ajus et Chéro, c'est le top de la division tag team à SmackDown, et peut-être même dans toute la fédération.
Pas loin.
On va pas bouder notre plaisir. Hein. On a eu un match qui était fort plaisant, qui a eu des spots qu'on a déjà vu mais qu'on aime toujours voir. On a une alchimie entre les 6, les 7, parce qu'il y a quand même Biggie qui fait des matchs aussi. Donc il y a une alchimie entre les 7 gars qui est plus approuvée. Voilà, à mon avis, la tag team de l'année, elle se trouve entre ces trois-là.
Oui, très clairement. Ouais. Non, mais c'est du super boulot. Et c'est d'ailleurs, je pense, si ça n'avait pas été Carmella Artruss en opener, ça aurait probablement été un autre excellent choix d'opener. Bon, ouais. ils ont utilisé les deux à la suite dès le début. Ce qui est plutôt bien, parce qu'écoute, il se trouve que le public était chaud bouillant derrière ça.
C'est ça, voilà. On enchaîne un moment un peu léger, un moment où il ne faut pas trop réfléchir, avec un moment où là, tu as intérêt à ne pas rater une miette, sinon tu ne vois pas le tag, tu vois pas le spot. C'est plutôt bien fait de leur part. Effectivement, oui, ils auraient pu s'en servir d'opener aussi.
Ouais.
Voilà. Et donc, on va continuer dans la carte. Et le match suivant est très, très important, parce que c'est le TLC match entre Braun Strowman et Baron Corbin. Alors, pourquoi je parle de Brock Lesnar? C'est parce que si Strowman gagne, il aura un title shot face à Brock Lesnar au Royal Rumble. Et par contre, si Corbin gagne, il est nommé General Manager permanent de Monday Night Raw. Et bien évidemment, s'il ne gagne pas, bah, il n'est plus general manager et il peut arrêter ses entourloupes qu'on a eues depuis quelques mois.
C'est ça.
Donc Baron Corbin arrive le premier. Il avait passé tout le pré-show à dire de toute façon, Strowman il est blessé, il viendra pas, je vais gagner par forfait. Il arrive avec un peu après Heath Slater qui a été nommé arbitre pour ce match. Donc Heath Slater qui est arbitre à cause de Corbin, on va pas l'oublier. Et donc il dit à Slater fait sonner la cloche et commence le décompte. Strowman ne viendra pas. Donc Slater s'exécute. 1, 2, 3, il arrive jusqu'à 7. Et là, Strowman arrive avec le bras gauche en écharpe. Dans le bras droit en écharpe, je me suis trompé.
Oui,
et,
ouais.
Et un micro dans l'autre main. Donc on se dit, tiens, il vient demander à ce qu'on repousse le match ou est-ce que autre chose. Eh bien non, il rappelle qu'un TLC, c'est un match sans disqualification. Alors que, et du coup. Si quelqu'un veut venir aider Strowman à affronter Corbin, eh ben c'est parfaitement légal. Et là débarque tour à tour Apollo fucking Crews avec une chaise, Bobby Roode, Chad Gable, les champions tag team avec des chaises, Finn Balor avec une chaise également. Corbin comprend qu'il va passer un sale quart d'heure.
Oui, c'est un peu ça.
Tous ceux qu'il a un peu entourloupé depuis qu'il est general manager vont l'attaquer. Il dit à Heath Slater. Sort tout le monde du ring, le match on l'annule, hein, il va pas compter. Et là, Slater, il se rebiffe, il met une droite, il dit non, tu m'as entourloupé aussi, je rejoins la révolution. Donc, il commence à tous à le taper un peu. Corbin essaye de s'enfuir sur la rampe, mais la musique de Kurt Angle retentit, Kurt Angle revient. Et il ramène Corbin dans le ring à coup de chaise. Ils lui font tous un petit finisher, un petit frog splash d'Apollo Crews, le combo neckbreaker moonsault de Gable et Roode, un petit coup de grâce, l'angle slam, et Strowman fait le tomber sur Corbin en lui mettant juste le pied sur le torse. Slater compte 1, 2, 3, victoire de Strowman. Strowman aura donc un title shot et Corbin n'est plus general manager. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match entre guillemets?
Oui, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets.
les super guillemets à ce niveau-là.
Entre des super guillemets. Eh ben écoute, étrangement, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça sympa. Je trouve que c'était une. Franchement, personne n'avait envie de voir un match compétitif, je pense, entre Baron Corbin et Braun Strowman dans un TLC. Enfin, je pense pas, hein, en tout cas. Et on savait pas trop comment ils allaient sortir de cet angle. Braun Strowman était encore blessé. C'était compliqué. Et ben, écoute, je trouve qu'ils s'en sont plutôt habilement sortis. J'aime bien le côté, une sorte de rébellion générale, Baron Corbin, finalement. Alors, c'est ça le payoff de toutes ces semaines de tyrannie. C'est un peu faible, peut-être, comme payoff. Mais bon, en tout cas, maintenant, c'est peut-être aussi le signe qu'on va passer à autre chose. Parce que Baron Corbin, là, s'est fait ratatiner par tous les gens qu'il a tyrannisé depuis des semaines. Roode et Gable avec leur title shot. Bon, c'est vrai qu'eux, ils s'en sont plutôt bien sortis parce qu'ils ont fait, voilà, ça tire, mais ils s'en sont bien sortis. Mais bon, voilà. On a vu Balor, on a vu Slater, évidemment. Bon, Apollo Crews, ok, bon, pourquoi pas. Non, mais bon, dans l'ensemble, je trouve que c'était un moment qui file la banane. C'était un peu dans la lignée, écoute, de ce début d'émission qui était assez réjouissant. Je trouve que le rythme était plutôt bon et respecté avec cet angle qui permet de montrer Strowman très fort et un peu moins con qu'à l'accoutumée, parce que pour une fois, il s'était mis un peu dans la panade avec cette stipulation qui était un peu débile, je trouve, de sa part. Mais finalement, il a bien retourné le truc. Et puis bah voilà moi là je me perds un peu là, mais bah, au final l'essentiel c'est que je trouve que l'angle était plaisant. Ça veut dire que Corbin risque de redescendre clairement de son piédestal et ça c'est pas mal. Et Braun Strowman sort grandi de cette affaire, donc je suis content.
Ouais bah je suis comme toi, je trouve que la porte de sortie est la bonne. Ils ont trouvé la solution qui paraît la meilleure. Pour Strowman en tout cas, pour Corbin, bah, à voir ce que l'avenir lui réserve. Je vais t'avouer que quand j'ai vu Strowman arriver avec l'écharpe, je me suis dit, il va quand même pas se battre avec juste un bras. Alors certes, pour le montrer qu'il est fort, et pour montrer qu'il est fort, ça serait super, mais c'est peut-être pas le but là actuellement. Et effectivement, voilà, il montre il a pas que des muscles, il a un petit cerveau aussi. Et bah, il a rameuté tous les gens qui pourraient avoir une dent contre Corbin. Et il a parfaitement géré son affaire. Il n'a pas porté un seul coup. C'est les autres qui ont fait tout le boulot, mais c'était parfaitement légal, comme il l'a souligné. Alors, je vais rajouter à ce segment un petit passage qui était sur le site de la WWE de backstage avec Heath Slater qui dit que bah, maintenant qu'il est que Corbin n'est plus là, peut-être qu'il va pouvoir redevenir un vrai catcheur et qui lance et qui donne en fait son maillot d'arbitre au caméraman en disant tiens mon gars, j'en ai plus besoin. Voilà, c'était le petit moment sympa pour Slater qui a eu un peu de temps d'antenne ces derniers temps. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ça permettait de le remettre un peu devant tout le monde.
C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que finalement, à chaque fois, on se dit toujours, ça fait partie des mythes un peu du catch. Pourquoi est-ce que les heels n'utilisent jamais à plein régime, un peu entre guillemets, la stipulation no disqualification pour bah, du coup bah, demander à plein de mecs de venir les aider, foutre le truc en l'air. Bon, là, c'est un peu paradoxal parce que finalement, la lumière est venue d'un face
Oui, c'est vrai.
qui du coup a enfin utilisé, c'est vrai, ce trou béant en fait dans le règlement du no DQ pour venir pourrir un match en fait parce que du coup, il a rameuté tous ses potes et il a foutu le dawa. Bon, là, voilà, ça venait d'une histoire, ça avait du sens que ce soit le face qui fasse ça, mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un truc on se le dit depuis des années, on se dit, pas normal,
Ouais.
franchement, no DQ, le heel devrait en tirer plus profit. Bah non, voilà, bah c'est le gentil qui a eu raison.
Ouais. Puis bon, bah, comme on disait, ça reste un moment un peu léger parce que bah on peut pas prendre ça super au sérieux quand on voit
Non.
tout le monde qui débarque, Corbin qui est tout seul, tu te dis ah bah ça va être rigolo, ça va pas
Voilà,
être ça
il
va
va se
pas être
prendre la
sympa pour lui,
fessée.
mais ça va être rigolo pour nous.
C'est ça.
Voilà. Et bah ce moment, encore une fois, ce moment un peu de légèreté, je trouve que le début du show a pas arrêté d'alterner entre moment de légèreté, moment sérieux, et c'était pas plus mal. Parce que le moment d'après, c'est le match d'après, c'est un match qui lui est vraiment dans l'émotion, puisque c'est le tables match entre Natalya et Ruby Riot, accompagné bien évidemment de son Riot Squad. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi la feud, bah tout part en fait de Ruby Riot qui salit la mémoire du père de Natalya récemment décédé. Natalya qui charge vengeance. Il fallait mettre un tables match dans la carte, ils ont choisi celui-là. Et donc, on a un match avec cette table, avec le stickers du père de Natalya. Je trouve absolument cette table de mauvais goût total, mais bon, ça rentre dans l'esprit de Ruby Riot. Le match a été un petit peu long pour moi, mais ça passait quand même parce que bah, y a eu des spots. Notamment les deux spots qui éliminent consécutivement Liv Morgan et Sarah Logan, qui sont assez sympas. Les deux acolytes de Riot vont passer chacune à travers une table. Sarah Logan après un power slam et Liv Morgan après un coup de bélier alors qu'il était sur le bord du ring. Natalya a également prévu une table customisée puisqu'elle a un sticker Ruby Riot sur la table. Elle l'installe au coin du ring, juste devant le turnbuckle. Mais Ruby arrive à la contrer, se prépare pour un Hurricane Rana pour l'envoyer à travers la table. Natalya, qui avait entre-temps revêtu pardon, la veste de son père, bloque.
Qui devait être très pratique pour catcher, oui.
Ah, exactement, bloque le Hurricane Rana et envoie Ruby Riot à travers la table d'une powerbomb de la deuxième corde pour gagner le match et avoir un moment de joie après les dernières semaines qui n'ont pas dû être faciles pour elle, entre la mort de son père et tout ce que le Riot Squad lui a fait subir. Donc voilà, donc c'était un tables match. Moi, je trouvais un poil long, mais toi, qu'en as-tu pensé, Giscal?
Bah, c'est ça en fait, t'as bien résumé, c'était trop long. On va dire que c'est dommage parce que bon voilà, c'était un peu cheesy, comme on dit là, c'était très voilà, le symbole. Les signes vers le ciel, la veste, la table et tout. Bon, il y avait beaucoup de trucs un petit peu over the top, mais dans l'ensemble, il y avait des bonnes idées dans ce match. Je trouve qu'il était plutôt bien écrit. Les éliminations du Riot Squad, comme tu l'as dit, on exploite parfaitement la stipulation, le côté babyface valeureux, hein, contre 3,
ouais.
qui se sert de son environnement et de son courage pour,
ouais, puis,
bah, pour
puis surtout,
repousser.
Surtout, excuse-moi, ça permet de
Vas-y,
rythmer
vas-y.
également le match, parce que il y a des moments où quand Ruby Riot était en contrôle, c'était un peu plus lent, bah, le heal qui contrôle, c'est toujours comme ça. Et là, d'un coup, hop, Liv Morgan se fait éliminer. Ah bah c'est un moment où tu reprends
Ouais, tout à
l'intérieur du
fait.
match. Sarah Logan se fait éliminer, c'est pareil, tu reprends l'intérieur du match. C'était quand même bien, bien placé dans le match,
C'est
même
ça.
si on aurait pu abréger un petit peu.
Ah oui, moi je pense qu'on pouvait faire la même chose avec la moitié de temps. Et ça aurait été, franchement, s'ils avaient fait ça en 6 minutes, ça aurait été un plutôt bon match.
Oui.
Blague à part, je pense que ça aurait plutôt été un bon match
Oui.
pour la simple et bonne raison que. Écoute, c'était rythmé, il y avait une bonne histoire de Babyface valeureux qui lutte pour ce qu'il a de cher, et voilà, machin avec le heel méchant, les bons rebondissements, un très joli finish, hein, parce que la powerbomb de la deuxième corde sur la table est vraiment visuellement très
Ouais.
sympa. Donc en fait, il y avait tous les bons ingrédients, mais il y avait 6 minutes de trop et peut-être un tout petit peu de théâtral dont on aurait pu se passer.
Ouais.
Donc voilà, c'est ça à mon avis. Donc c'est évidemment, on redescend un petit peu parce que ça a pas gardé le public, donc on redescend un petit peu en intensité par rapport au début du show. C'est dommage parce que je trouve que c'est des écueils qui sont faciles à éviter. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont voulu vraiment donner autant de temps à ce match-là. Peut-être que, écoute, c'était une façon de faire un petit hommage et de faire plaisir à Natalia. Écoute, tant mieux pour elle, hein. Elle a bien le droit à ça après tout le temps qu'elle a passé à
Ouais.
WWE. Mais bon, voilà, un petit peu long, on va pas se mentir, hein.
Alors, moi, il y a un écueil qu'ils ont évité quand même. Je m'attendais à voir arriver Sasha Banks et Bayley
Ah oui, non,
pour.
heureusement que non, oui.
Et je me suis dit, quand elles sont pas arrivées, c'est tant mieux, parce que
Oui.
honnêtement, ça aurait été de trop si les deux arrivaient.
Oui, c'est ça. Et puis c'était l'histoire de Natalia et son père contre les petites rebelles. C'était pas une
Ouais.
histoire de 3 contre 3. Donc ça, en effet, je suis d'accord avec toi. Ouais.
J'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment, Ruby Riot passe à travers la table où il y avait son sticker,
Bien
histoire de
sûr.
bien enfoncer le clou dans le domaine. Mais bon, voilà, comme tu disais, c'était un moment où on a un peu perdu le fil parce que c'était moins rythmé, c'était moins, enfin, c'était rythmé, mais moins intense que les matchs d'avant. Et du coup, le temps qu'on reprenne un peu notre souffle, qu'on se prépare à la suite, on a une petite vignette vidéo, comme on a depuis quelques semaines, sur l'arrivée de Lars Sullivan dans le main roster. On ne sait pas encore où il va aller, hein. Les commentateurs disent que Shane et Stephanie se battent en coulisses pour l'avoir dans leur roster. Et que penses-tu, toi, Lars Sullivan? Est-ce que déjà tu le connais un peu de NXT ou c'est un autre complet pour toi?
Non, 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 je connais un petit peu. Écoute, j'ai plutôt hâte. Ouais, si, j'ai assez hâte qu'il monte. C'est un bon monstre ultra puissant. Enfin, c'est vraiment. D'ailleurs, c'est son surnom, je crois, hein, The Freak.
Ouais.
Mais enfin, voilà, je pense que ça lui correspond parfaitement. C'est vraiment. Presque un peu une bête de foire à l'ancienne, hein, on est sur un catcheur à l'ancienne presque,
Ouais.
dans son apparence, vraiment le monstre, quoi, le mec bigger than life. Et donc j'ai assez hâte de le voir arriver dans le main roster, je pense qu'il peut faire assez mal.
Et tu le verrais plutôt à Raw ou à SmackDown?
Sais pas, c'est compliqué. Il a le profil du catcheur de Raw, c'est vrai. Il a un petit peu le profil du catcheur de Raw, je trouve. Néanmoins, il y a. Je sais pas, il y a quand même ce qu'il faut. Il y a quand même ce qu'il faut. Arro, je sais pas. Écoute, honnêtement, je sais pas trop. J'ai pas trop d'avis sur la question. Ouais, j'ai
Non.
pas vraiment réfléchi. Je sais pas. Toi, t'en penses quoi?
Moi, je vais t'avouer que je le verrais plutôt à SmackDown parce qu'en fait, la place de monstre à Raw est déjà prise. C'est Strowman. Il ne peut pas y avoir deux monstres dans le même show. Alors que.
Oui, c'est vrai.
Pardon. Alors que à SmackDown, t'as pas de monstre comme ça. Il y a le Big Show qui fait une apparition de temps en temps, mais il est plus capable d'assurer derrière. Donc moi, je le verrais bien à SmackDown. En Monster Hill qui vient justement affronter pourquoi pas Daniel Bryan ou AJ Styles, qui sont des plus petits gabarits, pour justement rester dans la dynamique David contre Goliath que la WWE sait si bien manier. Et l'opposition de style serait pas inintéressante, hein, entre le Sullivan ou Bryan, ou entre Sullivan et Styles.
C'est pas faux. Ouais. Écoute, pourquoi pas, SmackDown, en effet, c'est peut-être pas un profil qu'il y a à SmackDown, donc en effet, ça pourrait être intéressant. Bon, en tout cas, ils essayent de créer de la hype, hein. Ça, c'est, on peut pas leur enlever ça, parce que
ouais.
Les vignettes, il y en a eu, déjà, il y en a chaque semaine à Raw à SmackDown, il y en a eu dans le pré-show, en veux-tu, en voilà, des vignettes sur Lars Sullivan, il y en a pendant le pay-per-view, donc ils martèlent, hein. Je sais pas ce qu'ils ont prévu pour lui, mais en tout cas, ils y vont.
Ouais. Bah, on verra bien, de toute façon. Là, honnêtement, je suis pareil, je suis assez hypé. Peu importe le show où il ira, ça peut être intéressant. Donc, à voir par la suite.
Ouais.
Et la suite du show, justement, une fois cette vignette terminée, c'est un match qui n'a pas de stipulation. Il n'y en a pas beaucoup dans ce pay-per-view, mais celle-là, on n'en a pas. Entre l'Écossais Drew McIntyre et l'Irlandais Finn Balor. Un match qui a un peu surpris tout le monde par son résultat. Puisque,
ah oui.
Suite à une intervention de Dolph Ziggler qui superkick McIntyre et s'apprête à le frapper avec une chaise, l'arbitre intervient, McIntyre bloque le coup, c'est là qu'il se prend un dropkick dans la tête alors qu'il avait encore la chaise en main, et Finn Balor enchaîne avec le coup de grâce pour un tombé assez rapide. Le match a duré une petite dizaine de minutes, je crois, peut-être un petit peu plus. Mais
12 minutes apparemment, ouais.
12 minutes, bah écoute, voilà. Et Finn Balor gagne ce match que personne ne le voyait gagner quasiment. Du moins dans l'équipe catch-up, je crois qu'on avait tous mis, ou presque tous, McIntyre vainqueur. Je vais vérifier rapidement.
Ouais, il me semble.
Et,
non,
donc,
c'est une grosse surprise. Ouais, c'est une grosse surprise.
Et alors, surprise mise à part, qu'as-tu pensé du match en lui-même?
Eh ben, écoute, surprise mise à part, j'ai trouvé que ce match était pas mal du tout. C'est pas une surprise. Je m'attendais à de toute façon une belle prestation des deux hommes. Donc ça, c'était pas étonnant. Finn Balor toujours. Moi, ce que j'ai bien, au-delà de la performance individuelle des deux, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est l'opposition de style et de physique. En fait, c'est vrai que. Il y avait un truc assez captivant toujours de voir McIntyre et son physique de tronc d'arbre vraiment mais massif face au lutin Finn Balor. Quand McIntyre catch face à un catcheur comme ça moins impressionnant que lui, je trouve qu'il est très très impressionnant à regarder comme ça. Il dégage une impression de puissance et qui est assez terrible. Donc déjà, je trouve que même après l'opposition de style, voilà, la vitesse de Finn Balor face à la puissance, je trouve que voilà, ça marchait bien, bonne alchimie entre les deux. Alors l'intervention est anecdotique dans le sens où c'est pas forcément ce qu'on retient du match, même si ça a amené le résultat, mais bon, ça reste assez anecdotique. C'est surtout que ouais, ce résultat est très surprenant parce que je les voyais vraiment pas faire perdre Drew McIntyre de si tôt, en fait, tout simplement. Donc je suis assez perplexe et en même temps assez content, parce que c'est vrai que ça veut dire aussi que peut-être que Finn Balor n'est pas si loin que ça finalement. Dans le subconscient des bookers, peut-être, parce que c'est vrai que c'est l'impression qu'on pouvait avoir depuis de nombreuses semaines, voire depuis de nombreux mois. On peut y aller en mois même, hein, avec Finn Balor. Donc c'est quand même quelque chose d'assez positif pour lui, parce que c'est une grosse victoire quand même. Hein, faut pas sous-estimer le fait de battre, battre Drew McIntyre en pay-per-view, c'est quand même assez énorme.
C'est ça, même s'il n'y avait pas de vrai enjeu, c'est quand même le.
Non mais on sent que c'est devenu quelque chose de gros.
Ouais, c'est quelqu'un qui prend de l'importance. C'est lui qui a mis Engel quasiment à la retraite la dernière fois. Il a fait un match au Survivor Series assez monstrueux dans l'équipe. Enfin bref, il fait des prestations toujours impeccables. Et c'est vrai, voilà, cette victoire, maintenant il faut construire dessus. On peut pas, faut pas la laisser comme ça. Que ce soit pas juste un coup d'éclat comme dans un moment un peu terne. Mais
ouais, complètement.
effectivement, il y a moyen de construire derrière. Alors, on n'en a pas fini avec ces trois individus, puisque en coulisses, Charlie Caruso demande à Finn Balor des commentaires sur sa victoire. Et il dit que bah il est content d'avoir gagné, mais il comprend pas ce que Ziggler faisait là et pourquoi il est venu s'incruster. Donc Ziggler vient quand même lui dire, écoute, si j'étais pas venu, il t'aurait mis une raclée, tu devrais me remercier. Balor lui dit de le laisser tranquille. Ziggler le frappe, ce qui du coup met un alignement un peu sur Ziggler un peu flou. En fait, il est pas face, il est pas heel, il pense à lui avant tout. Il fait un peu ce qu'il veut. Ça me dérange pas sur Ziggler, c'est le genre de personnage qui peut justement avoir ce type d'alignement mixte sans problème. Et ce qui l'intéresse, c'est Dolph Ziggler, c'est pas les autres. Et voilà.
Ah ouais, complètement. Mais c'est vrai que, bon, alors du coup, quand je disais que la victoire, enfin l'intervention de Ziggler était assez anecdotique, bon, je parlais par rapport au match, parce que c'est vrai que du coup, ils l'ont exploité.
Oui, dans le match, ouais, ouais. C'est pas grand chose. Hein.
Ils l'ont exploité derrière. C'est vrai que, écoute, ouais, on pensait face turn de Dolph Ziggler parce qu'il s'était rebellé face à Drew McIntyre. En même temps, ça restait juste une rébellion. Une rébellion face à un ex-pot, mais voilà, c'est un heel contre un heel, quoi, qui se fritait parce qu'il y en a un qui était pas content que l'autre humilie l'autre. Donc c'est vrai qu'on pouvait encore flirter un petit peu avec l'alignement de Dolph Ziggler des deux côtés. Bah, manifestement, c'est ce qu'ils décident de faire puisque il a des interventions qui font popper la foule, mais en même temps, bah là, il s'en prend
à un favori
du public. Donc c'est vrai qu'on peut se permettre de faire ça avec Dolph Ziggler et c'était pas trop mal fait. On propose des petits trucs, on propose des petits rebondissements, des petites avancées pendant le pay-per-view tout en j'ai trouvé que c'était intéressant comme petit segment.
Mmh. Ouais, moi aussi. Puis comme tu le disais, l'alchimie entre Balor et McIntyre dans le ring était assez plaisante. Il n'y avait pas de problème de timing entre les deux, les coups étaient portés comme il fallait. Ou du moins, s'il y a eu des problèmes de timing, ils ont réussi à les masquer. Moi, franchement, j'ai trouvé le match très plaisant pour un match sans stipulation. Alors que justement, moi, je suis le genre de gars dans un pay-per-view à appellation comme TLC, Hell in a Cell, tout ça. Je trouve que justement, il faudrait mettre l'accent plus sur les stipulations. Et là, il n'y en avait pas et ça aurait pu me sortir du match avant même qu'il commence. Mais en fait, non, j'étais bien dedans parce que les deux sont des super pros.
Ouais, et, c'était très propre.
Et voilà, et donc la victoire un peu surprise de Finn Balor. Et en fait, pas si surprise que ça pour Ringside, puisqu'il l'avait pronostiqué. Bravo Ringside.
Ah, il l'avait pronostiqué, bravo lui.
De l'équipe catch-up, c'était le seul à l'avoir pronostiqué.
Bravo à lui alors. Ouais, je m'y attendais. Ouais. Moi, franchement, je m'y attendais pas. C'était un peu vraiment une question de ce qui s'est passé sur les dernières semaines, quoi. C'est Drew McIntyre semble être la force dominante à Raw qui est poussé. Donc je le voyais vraiment pas perdre face à un Finn Balor qui peine à gratter des victoires quand il est pas en tenue de gala, en démon, en pay-per-view, là. Ouais. Donc ça me semblait assez évident. Et écoute, une première surprise dans ce pay-per-view. Ouais.
Et alors, donc on a eu un match de table, on a eu un match d'échelle. Et maintenant, on va passer au match de chaises. T'aimes bien les chaises, Giscal, d'habitude?
Je tords ça. Je suis même assis sur une chaise actuellement. Donc.
Et ben là, on va mettre plein de chaises autour du ring. Randy Orton et Rey Mysterio arrivent. Alors, ils perdent pas de temps. Ils saisissent d'une chaise tous les deux assez rapidement. Ils s'envoient les coups comme on s'y attendait. On a quand même plutôt une grosse domination d'Orton dans le match. Rey qui s'en sort par des actions un peu rapides. Et puis à la fin du match, Orton, après son DDT de la deuxième corde, ne se lance pas pour le RKO comme d'habitude, mais il attrape des chaises, il les installe, et il amène Rey Mysterio sur l'une de ses chaises, et il se fait surprendre sur un sunset flip, alors qu'il s'apprêtait vraisemblablement à porter un RKO, et Mysterio remporte la victoire de cette façon, un peu par filouterie, par vitesse... Bref, un petit peu de ruse de renard pour le GOAT, qu'il s'était marqué sur son pantalon, Greatest of All Time. Voilà. Donc, qu'as-tu pensé de ce match qui n'a pas duré longtemps, mais qui a été assez rapidement dans le vif du sujet?
Ouais, bah écoute, c'est ma petite déception quand même de ce pay-per-view côté SmackDown. C'est ce match. J'en attendais pas non plus une montagne, mais je pensais que deux super pros comme eux, avec une stipulation no DQ, parce que bon, au final, c'est ça, hein, chairs match, c'est du no DQ avec des
Alors,
chaises.
c'est pas exactement ça, parce qu'en fait, c'est une subtilité. Sur le chair match, tu peux utiliser la chaise comme tu veux, mais si tu utilises une échelle, une table, tu te fais disqualifier quand même.
Ah d'accord,
C'est
ok.
déjà arrivé. C'est
Autant
déjà
pour
arrivé
moi.
lors
Bah
du
écoute,
tout premier TLC.
tu m'apprends quelque chose, je ne savais
Ah
pas. Je
bah,
pensais
alors
que c'était
c'est.
juste une sorte de no DQ où les gens se bornaient à utiliser les chaises parce que bon bah voilà, c'est tout ce qu'ils ont sous la main.
En fait,
Je ne
non,
savais pas.
lors du tout premier pay-per-view TLC en 2009, il y avait un match entre l'Undertaker et Batista, un chair match, et
D'accord.
Batista avait été disqualifié en fait pour avoir utilisé autre chose qu'une chaise.
Ah. Eh ben écoute, tu me là
Donc
tu m'apprends quelque chose. Et je pense que
voilà.
tu en apprends que tu apprends quelque chose à pas mal de nos auditeurs. Donc c'était une précision bien utile. Mais en tout cas, toujours est-il que bon voilà, j'ai été un peu déçu parce que je pensais qu'il ferait des trucs un peu plus innovants, un peu plus fun. J'ai pas senti le Orton super vicieux, super violent qu'on a pu avoir contre Jeff Hardy lors de sa dernière rivalité. J'ai pas vu le Rey Mysterio super virevoltant. Alors oui, le petit quand il se sert de la chaise comme un surfboard là et qui passe sous la première corde pour faire un splash sur. Bon, c'est sympa. Mais voilà, il y avait que ça. Finalement, de 12 minutes de match, on retient qu'un petit spot et une victoire de filou. Je suis un peu, ouais, un petit peu déçu de ce match qui, je trouve, a fait un peu redescendre l'enchaînement de Finn Balor, Drew McIntyre, qui était très correct, hein, et de celui-ci a quand même fait, je trouve, à ce moment-là de la soirée, pas mal faire descendre la pression. Et bon, c'était un reproche.
Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense que on est un petit peu déçu parce que bah on connaît le pédigré des deux. Hein. Voilà,
Ouais.
on les connaît bien depuis le temps qu'on regarde. On a toujours envie de les voir faire des super matchs. Là, je pense qu'ils ont ils ont dû aller vite à l'essentiel parce que le programme était trop chargé. Ils ont dû faire des sacrifices, certains matchs qui ont duré peut-être un peu trop longtemps, d'autres qui ont peut-être pas duré assez. Je pense qu'avec 5 minutes de plus, ils auraient pu nous sortir des spots un peu plus marquants.
Ouais, c'est peut-être un match qui, pour le coup, a manqué de temps par rapport à d'autres qui ont eu trop de temps,
Voilà.
peut-être. Ouais.
Voilà, Et à la limite, je me dis, ce match-là, peut-être qu'ils auraient peut-être pu le mettre en pré-show en l'allongeant, en fait. C'est-à-dire, au
Compliqué
lieu de
de
le laisser
mettre
à
Rey
12
Mysterio
minutes,
et Randy Orton en
voilà,
pré-show quand
ouais.
même. Mais oui.
Après ce match de chaise qui nous a un petit peu laissé sur notre faim jusqu'à l'émoi, peut-être que vous, les auditeurs, vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On va passer à un match de championnat féminin, celui de Raw, avec la championne Ronda Rousey qui va affronter Nia Jax, qui, pour rappel, avait gagné sa place de challengeuse lors de la Battle Royale du pay-per-view Evolution. Nia Jax est accompagnée de Tamina, comme depuis plusieurs semaines. Le match, je vais être un peu vache, mais j'en ai rien retenu, mis à part que Tamina n'a servi à rien. Elle a fait une pauvre intervention qui n'a pas suffi. Et Ronda finit avec un armbar pour faire taper Nia Jax. Donc, Giscal, si tu as plus de choses à dire sur ce match qui, moi, ne m'a absolument pas marqué. Sans toi autorisé à en dire plus.
Non, et bah écoute. Ouais, si, écoute, moi j'ai plutôt bien aimé ce match. Alors, est-ce que j'en ai retenu des choses? Je sais pas. En tout cas, j'en retiens une impression, encore une fois, très positive de Ronda Rousey, qui, je trouve, a été très bien, encore une fois, dans un nouveau registre. Là où elle était, c'était un peu du David contre Goliath. Elle a bien celle pour Nia Jax. Je trouve qu'elle était. Sa partition était assez convaincante. L'opposition de style était plus agréable à regarder que ce que j'anticipais, parce que je m'attendais un peu à une purge. Et je trouve que Nia Jax a, toute proportion gardée, fait plutôt du bon boulot pour faire la Monster Hill, la montagne insurmontable. pour Ronda Rousey. Donc je trouve que la dynamique était pas mal. Ça, voilà, ça, encore une fois, je me répète, mais ça a permis de voir un peu un nouveau visage de Ronda Rousey, une Ronda en difficulté, une Ronda qui doit sortir les tripes un peu et se battre elle part d'en dessous pour essayer de surmonter le truc. Donc je trouve que c'était pas mal, ça c'était pas trop long, c'était plutôt bien fini, plutôt bien fichu. Et puis bah le final, voilà, bon après le armbar avec elle embrasse le poing de Nia Jax. Je trouvais que le visuel était sympa. Là, elle lui dit voilà ton poing là, ce que j'en fais. Puis juste avant de lui porter son armbar. Donc écoute, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça plutôt sympa et je trouve que c'était une bonne défense de titre pour Ronda Rousey avant de s'orienter vers des choses plus sérieuses. Donc voilà, ils ont fait le taf.
Alors, je vais quand même nuancer un peu mon propos, hein. J'ai pas retenu grand chose du match parce que bah, il
Il
était
commence
pas
à être
mauvais.
tard.
Je commençais à accuser le coup. Mais c'est vrai que y a quand même l'opposition de style qui effectivement a bien fonctionné. Notamment au tout début où Ronda Rousey faisait un peu une Mohamed Ali. Des petits coups rapides, mais enchaînés, enfin des petits coups enchaînés très vite, et hop, on esquive, on reprend la distance, et puis on recommence, tu sais, le fly like a butterfly et hit like a bee. Bref, ça
Oui.
fonctionnait assez bien, je trouvais.
Oui, un petit peu. Oui, je suis d'accord. Ouais.
Et je disais, enfin, et puis j'ai été méchant en disant qu'il y a aucun spot qui m'a vraiment marqué. En fait, il y en a un que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est quand Ronda prend de l'élan, fait un saut assez haut quand même, hein, pour envoyer son avant-bras dans la tête, enfin dans la tempe de Nia Jax. Ça,
Ah
je trouve
ouais, très sympa.
visuellement, c'était visuellement voilà, c'était bien l'illustration du David contre Goliath qu'on aime bien voir. Voilà, donc on a la championne valeureuse qui a gagné face à une adversité qu'elle n'avait pas encore connue. Mais ce n'est pas fini pour elle ce soir parce que on va avoir deux petits segments en coulisses. Le premier avec Nia Jax et Charlie Caruso qui lui demande des commentaires. Nia Jax ne lui parle pas. Becky Lynch vient se rappeler au bon souvenir de Nia Jax en lui donnant un coup et en l'envoyant contre le mur, tout en lui disant d'arrêter de mentionner son nom et d'essayer de choper de la pop ou de la hit à ses dépens. Et Ronda aussi, un peu plus tard, qui dit que maintenant, enfin, on lui demande si elle va passer à Charlotte Flair ou à autre chose. Elle rappelle que le karma est une bitch, comme elle
Ouais.
dit, et qu'elle est la baddest bitch on the planet.
Donc,
Et
ça va
du
chier.
coup, laisse entendre qu'elle n'en a pas terminé ce soir.
Ça, ouais, sympa ce petit segment backstage. Encore une fois, hein, comme le segment entre Finn Balor et Dolph Ziggler, j'ai beaucoup apprécié ces petits segments backstage que tu as mentionnés. Parce que c'est assez rare dans un pay-per-view qu'ils prennent le temps là entre les matchs de continuer à raconter des histoires, quoi. Donc, Becky Lynch qui vient solder en quelque sorte hein,
C'est
sa
ça.
son affaire avec Nia Jax qu'elle avait. Donc ça voilà, ça s'est soldé. Et puis Ronda Rousey qui par contre elle c'est loin d'être soldée. Donc voilà, on continue à raconter des choses. Ça fait du liant dans l'émission. J'ai beaucoup aimé ça ces petits segments.
Puis surtout, c'était quand même assez surprenant dans un pay-per-view aussi dense. Hein. On rappelle,
Ah
il y avait 10
oui.
matchs, 10 matchs sur la carte principale en 4 heures.
Mmh. Tu
C'est
fais bien
assez
de le rappeler,
surprenant.
oui.
De voir ces petits
Ils
segments,
prennent
mais
le temps de
écoute,
faire ça, ouais.
voilà, c'est toujours agréable parce que ça permet de ne pas avoir un truc où il n'y a que les combats qui comptent, dans ce qui se passe backstage aussi.
Ouais, puis le monde s'arrête
Ça...
pas de tourner pendant le pay-per-view, quoi. Tu vois, c'est ça qui est sympa
Voilà,
aussi.
exactement, ouais. Et alors, on va rester backstage parce que avant le match suivant, on a une petite interview d'AJ Styles qui dit que bah, pour lui, l'ancien Daniel Bryan, le nouveau Daniel Bryan, bah, c'est le même gars en fait, il a la même tronche, il n'y a pas de différence, il peut les battre tous les deux n'importe quand, et que maintenant il en a assez des mind games de Bryan, et il dit on a assez joué à son jeu à lui, maintenant on va jouer à mon jeu à moi, et ça nous amène tout ça au WWE Championship, un match sans stipulation encore une fois, c'est peut-être un petit peu dommage quand même, mais bon. C'était
Un petit peu.
peut-être pas obligatoire, mais on va en reparler après. Donc le match entre AJ Styles et Daniel Bryan. Alors le match, techniquement, il est superbe. Il n'y a pas de faute. Les deux, techniquement, on le savait, de toute façon, sont des maîtres de leur art. Et tous les enchaînements y passent habituels. Jay Styles qui fait Phenomenal Forearm, 450 Splash, Daniel Bryan qui fait son. Alors, je ne sais pas s'il s'appelle toujours les Yes Kicks maintenant, mais du coup, comment il faut les appeler.
Ouais, on ne sait pas, les No Kicks, ouais, je sais pas, il faut écouter le public.
le Label Lock également, puisqu'il ne faut plus l'appeler le Yes Lock maintenant, mais le Label Lock. Et au final, en fait, tout ça se termine. Néanmoins, toute cette technicité se termine sur un renversement de petits paquets pour Bryan, en faveur de Bryan, qui, du coup, conserve son titre. Une victoire qu'on avait tous un peu vu venir, mais
oui.
Est-ce que tu as aimé le match? Est-ce que tu es resté sur ta faim? Est-ce que tu aurais voulu un final un petit peu différent? Dis-moi tout, Giscal.
Je suis un peu partagé sur ce match. Je suis un peu partagé parce que, c'est indéniablement un match de très très grande qualité, d'une précision, d'un storytelling dans le ring qui est superbe. Et pourtant, est-ce que c'est la longueur du pay-per-view qui commençait à avoir à faire action sur moi? Je sais pas, mais j'ai pas vraiment réussi à m'enflammer pour un match qui était pour peut-être trop sage à mon goût. Je sais pas. Mais après, on peut pas nier le travail, notamment moi, de Daniel Bryan, qui m'a bluffé pendant le match, parce que il a cette capacité. Alors moi, je l'ai pas connu avant la WWE, et je pense que certains ne seront pas surpris de voir que son travail de heel est aussi efficace dans les cordes, entre les cordes. Mais moi, ça m'a vraiment bluffé de voir qu'il arrive à conserver un style de catch en fait qui est ultra rapide. Ultra précis, super dynamique. Il y a pas ces temps morts de domination de heel qu'il peut y avoir dans plein d'autres matchs de la WWE, mais tout en restant vraiment détestable dans son style, c'est-à-dire qu'il va troquer. Il va troquer ses coups de genoux et ses dropkicks contre des coups de boule, contre des chop jobs, il va pas faire ses running dropkicks trois fois, il va les faire qu'une seule fois avec des temps morts. C'est toujours cette science en fait d'arriver à conserver finalement un style qui rend le match ultra plaisant, mais tout en empêchant finalement la foule de vraiment s'enflammer pour ce qu'il est en train de faire. Donc je trouve que c'est assez bluffant sur ce match, le travail qu'il fait là-dessus. AJ Styles, de son côté, est toujours impeccable dans son selling. On a toujours l'impression que à chaque dropkick, il prend un coup de shotgun dans la figure. Enfin, c'est toujours assez impressionnant son selling. Voilà, il y a énormément de contres, énormément de rappels à leur match précédent. Mais il a manqué une petite étincelle, peut-être une violence, une intensité qui aurait pu être amenée peut-être par une stipulation, je sais pas, mais qui moi m'a empêché de me dire que j'avais face à moi un classique, tu vois, genre pour le titre WWE. J'ai pas eu ce sentiment là, et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Même si bon bah voilà, c'était un match de dingue, et je suis s'il y a bien un truc que je tire d'extrêmement positif, c'est que je pense qu'on va vraiment s'éclater avec ce Daniel Bryan Hill, parce qu'il est juste génial, quoi.
Alors, on va avoir peut-être un petit point de désaccord sur le coup, mais
ah oui,
je vais expliquer pourquoi. Alors moi, le match, effectivement, techniquement, je l'ai trouvé parfait, comme je l'ai dit. Manquait un petit peu d'intensité, il était peut-être un poil long du coup, et effectivement, peut-être qu'une stipulation aurait pu être salvatrice pour le coup. Transformer le truc en ladder match, ça aurait pas été déconnant non plus, hein. C'est toujours une stipulation un peu passe-partout, mais qui fonctionne bien. Alors maintenant, là où je suis moins dithyrambique sur toi, c'est qu'en fait, à la base, j'aime pas Daniel Bryan. Qu'il soit heel, qu'il soit face, en fait, je l'aime pas vraiment. Je reconnais le maître technicien, ça n'avait pas de problème, hein. Mais j'accroche jamais à ce qu'il fait. Dans le ring, enfin, quand il est au micro, il m'enchante jamais, il ne m'emmène jamais là où il veut. Donc là, j'ai eu un peu de mal à rester dans le match. Déjà, la fatigue, et en plus, le fait que je ne m'intéresse pas vraiment à Bryan pour ce qu'il fait, autrement que pour la technique. Mais ouais. Ça, c'est mon opinion à moi. Il y en a qui pensent que Bryan est un dieu. C'est votre droit, les gars, il n'y a pas de problème. Moi, je ne le pense pas. Je trouve qu'il est, c'est un très bon technicien, mais qu'après, je trouve qu'il, ouais, il, j'accroche pas, c'est tout.
Écoute, voilà, je pourrais, je tâcherai d'essayer de te convaincre, mais
Ah,
bon,
mais je ne demande qu'à être convaincu,
ce sera pas pour
effectivement.
cette semaine alors.
Il y a pas de, y a pas de problème. Je demande qu'à être convaincu, mais c'est très dur. Hein. Je pars d'un méchant a priori quand même, parce que bah Daniel Bryan, moi je me souviens de la première saison d'NXT en 2010, de son arrivée ratée entre guillemets avec le Nexus, puis son retour pour l'équipe à SummerSlam, etc. Mais déjà à l'époque, il m'intéressait pas vraiment. Il m'intéressait. Le seul moment où je le trouvais intéressant, c'était dans les interactions avec son pro de l'époque, le Miz. Déjà, j'avais du mal à m'y faire. J'avais du mal à rentrer dans le personnage. Mais c'est moi. Je ne suis pas la majorité. Hein. Je reconnais que dans le ring, il est meilleur que beaucoup de monde. Mais de là à dire que c'est le meilleur tout le temps, je suis pas si convaincu que ça.
Écoute, donc tu ne fais pas partie de ceux qui se sont levés en larmes à WrestleMania 30 de leur siège pour applaudir Daniel Bryan.
Si, parce que bah, l'histoire racontée était bien, mais c'est, je l'ai trouvée intéressante, pas pour lui
Ah oui, pas pour lui,
enfin,
juste pas pour
c'était pour
l'histoire, quoi.
tout ce qui était autour. La
D'accord.
rivalité contre l'autorité, représentée par Triple H, puis après par les poulains de l'autorité, Randy Orton, Batista, ça j'ai trouvé ça super intéressant. Mais ils auraient mis Daniel Bryan ou n'importe qui d'autre, ça a changé, j'aurais été de la même façon.
D'accord, ok.
Mais c'est mon opinion, hein.
Oui,
Voilà,
tu as bien le droit.
voilà. On est dans un pays libre, hein, j'ai le droit de ne pas aimer.
Jusqu'à preuve du contraire, oui.
Et donc voilà. Donc tout ça pour dire que Daniel Bryan garde son titre, comme depuis le début du show, en fait. Il n'y a pas eu de changement de titre pour l'instant.
C'est ça.
Alors après, il y a
Oui,
encore
c'est ça.
deux matchs de championnat et deux gros matchs, l'air de rien. Le titre intercontinental qui commence quasiment juste à la fin du match WWE avec Dean Ambrose, le challenger, qui vient affronter son ancien frère, son pote de toujours, Seth Rollins, le champion. Et alors, bah, c'est un match, je vais pas mentir, j'étais assez fatigué à ce moment-là. Bah, le match, il m'a redonné de l'énergie. Match, il m'a redonné de l'énergie parce qu'ils ont, ils ont envoyé quoi. Ils ont envoyé du lourd tous les deux. Les coups faisaient mal, enfin visuellement ça faisait mal. Les enchaînements toujours excellents. L'enchaînement superplex Falcon Arrow de Rollins toujours impressionnant. Il y a eu Dean Ambrose qui a eu des coups, des lariates qui faisaient mal et tout. On arrive à la fin du match. Rollins est en contrôle. Enfin, en contrôle. Il contrôle le match, mais il perd un peu ses nerfs. Il aurait pu gagner par décompte à l'extérieur. Mais il va ramener Ambrose sur le ring pour le finir avec un stomp. Et là, il se fait bloquer. Il se prend un coup de pied dans l'abdomen. Dirty Deeds. 1, 2, 3. Ambrose remporte le match. Nouveau champion intercontinental. Au terme d'un match qui a été intense, une rivalité qui est intense également, voilà, un match qui moi m'a bien réveillé à ce moment-là.
Ah bah écoute, alors ce sera notre deuxième point de désaccord
Il en
de la
faut, hein, il
soirée,
en
il en
faut.
faut. Ouais non, alors moi c'est ma grosse déception, grosse déception du pay-per-view. C'était pas du tout le match que j'attendais entre les deux. J'ai trouvé ça très convenu, on va dire. C'était pas la bagarre, la bagarre de rue sanguinaire entre deux frères déchirés que je m'attendais, enfin que je voulais voir. C'était, écoute, c'était un match de catch qui était, alors là-dessus, sur l'intensité des coups, sur la solidité, tout ça, il y a vraiment, il y a pas de problème. Enfin, c'était très propre, mais peut-être même sans doute trop propre en fait pour moi. C'était trop carré, trop abaissé comme match de catch, et c'est pas du tout. Enfin voilà, de toute façon dans ce match il manquait beaucoup de choses. Il manquait une histoire depuis plusieurs semaines qui n'arrivait pas à prendre. Il manquait une stipulation. Il manquait il manquait pas mal d'ingrédients pour que ça m'enchante, et ça m'a pas enchanté. Et c'était très très long en plus.
Ouais.
C'était extrêmement long. Et c'est dommage parce que si ça avait été un match porté par un storytelling de 3-4 semaines ultra intense où les deux se seraient déchirés, et là, ils se seraient envoyés des parpaings de malades à coups d'échelle ou de table, de trucs et tout pendant 25 minutes, ça aurait été génial. Mais 25 ouais. minutes de catch mat wrestling avec de temps en temps quelques suicide dive à droite à gauche et quelques blockbusters, ça m'a pas suffi quoi. Voilà, j'ai été vraiment très déçu par ce match et c'est vrai que j'en attends beaucoup plus pour la suite. Ils peuvent encore rattraper le coup hein, parce qu'ils ont une telle histoire entre les deux que maintenant il va y avoir une revanche. Mais
voilà, puis voilà, vu que Rollins a le droit à son rematch, ouais. La rivalité est probablement pas finie. Hein. Ils vont, à mon avis, ça va être une des grosses rivalités du premier quart de l'année 2019, quasiment jusqu'à WrestleMania, je pense. On devrait quand même arriver à des matchs plus intenses, plus comme tu voudrais les voir. Avec des stipulations qui vont vendre du rêve. Mais
J'espère.
C'est vrai que en y repensant, comme tu le dis, le match aurait mérité une stipulation. TLC, tables, ladder, que ce soit un TLC, un table match, un chair match, bref, une stipulation, ça aurait pu être intéressant.
Ouais. Tu vois, moi, j'ai du mal avec le fait, quand même, tu vois, parce que là, je profite de ce match-là qui est, je trouve, le plus bel exemple, enfin, l'exemple le plus criant. Mais j'ai quand même du mal avec le fait que dans un pay-per-view TLC, donc bah voilà, tu t'attends à voir tout un tas de stipulations, et il y a eu tout un tas de stipulations. Sauf que le problème, c'est que tu t'attends quand même à ce que ce soit tes matchs un peu phares, tes attractions principales qui proposent ces stipulations. Et c'est vrai qu'au final, les stipulations, elles ont été mises sur des matchs très secondaires. Randy Orton contre Rey Mysterio, Natalia contre Ruby Riot. Lashley et Elias, enfin on pourra redescendre la carte, et c'est vrai qu'au final tu te retrouves avec Daniel Bryan contre AJ Styles sans stipulation, Seth Rollins contre Dean Ambrose sans stipulation, ça fait bizarre, voilà.
Oui, non, je te rejoins. Là je suis entièrement d'accord. C'est vrai que on a l'impression qu'ils ont ajouté les matchs, les stipulations sur les matchs sans importance parce qu'ils se sont dit au fait faut qu'on foute une stipulation comme ça. Ça fait un peu raté, c'est vrai. Daniel Bryan, AJ Styles en ladder match, ça aurait pu être super. Dean Ambrose, Seth Rollins en tables match ou en chair match, ça aurait pu être génial. Surtout, je pense les chaises plutôt, ça aurait été plus violent encore. Ils se fracassent les chaises l'un après l'autre sur le dos, ça aurait pu être vraiment, vraiment bien, visuellement en plus. Mais bon, ils ont décidé de mettre les stipulations sur des matchs pas importants. Donc, on a dû faire avec. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu se battre vraiment ensemble, pas l'un contre l'autre. Donc, j'ai trouvé que l'alchimie restait présente parce qu'ils se connaissent bien.
On n'avait pas l'impression qu'ils se battaient pour tout ce qui, toute la folie, enfin l'histoire qu'il y avait derrière, quoi. C'était.
Ouais, c'est ça. Et en fait, l'histoire, ils la racontaient pas avec leur corps. Pour le coup, ils la racontaient. Il y a eu beaucoup de trash talk dans le match.
Ah ouais, puis alors, il y a eu au commentaire Corey Graves et Renee Young aussi, c'était presque trop d'ailleurs, ça. J'ai trouvé que c'était un peu.
Alors moi, j'ai pas eu.
T'as peut-être pas fait. Ah oui, non, c'est vrai que tu étais sur AB1.
Ouais, j'étais sur AB1, donc j'ai pas eu Renee et Corey.
Ouais, alors ceux qui ont suivi le match sur le feed anglais ont pu bénéficier d'une passe d'armes, mais genre en mode. Enfin, cours de récréation, là, entre Corey Graves et Renee Young qui n'arrêtait pas. Alors Corey Graves qui n'arrêtait pas d'envoyer des pics à Renee Young sur sa relation avec Dean Ambrose, hein. Mais c'était trop et tellement que tu avais de temps en temps Michael Cole qui disait Corey, c'est bon, ça suffit, commente le match et tout. C'était bizarre, hein. D'ailleurs, justement, pendant tout le match, je me demandais si ça allait pas déboucher à quelque chose. Pour ceux qui avaient peut-être, pour ceux qui passent de temps en temps sur le forum des Cahiers du Catch, on avait éventuellement évoqué la piste que peut-être que qui sait. Renee Young allait peut-être être impliquée dans ce match et faire gagner son mari ou se peut-être passer du coup un peu en valet heel de Dean Ambrose. Bon, c'est pas arrivé, c'est peut-être pas trop tard. Hein. Mais en tout cas, ils poussent le truc à fond. Hein. C'est un angle qu'ils essayent de pousser.
Bah, surtout qu'en plus, c'est une relation qui était restée plus ou moins discrète, secrète pendant longtemps. Et à partir du moment où ils l'ont affichée, bah, ils ont décidé de jouer à fond.
De jouer à fond, ouais.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que voilà, René Young passe son temps à dire que Dean ne lui dit pas tout ce qu'il prépare et tout, et qu'en fait, elle mentirait pour le couvrir. Bon, c'est des rumeurs parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à mettre sur le moment. Mais
oui.
Ça serait pas déconnant non plus, effectivement, de la voir se rallier à son mari pour l'aider à gagner et puis amener un petit match mixte qui serait pas super bien parce que bah, René Young n'est pas une catcheuse. Hein, c'est...
Non.
On va pas se mentir.
Non, mais par contre, en valet avec un rôle hors.
Ouais, voilà, valet manager.
Ouais, ça pourrait être pas mal.
Un peu un genre de Leo Rush, mais au féminin.
Tout à fait, ouais.
Ça pourrait être sympa, ouais. On n'en est pas là, toujours est-il que voilà, pour l'instant, donc Dean Ambrose est notre nouveau champion intercontinental. À ton avis, est-ce que son règne va être clean, va être sale, va
clean,
être...
Non, il va être très très sale, je pense. Son
est-ce qu'il va customiser la ceinture
Je sais pas, mais d'ailleurs j'ai cru lire, je sais plus où, sur Twitter ou pas, je sais pas, que Daniel Bryan, par contre, en parlant de customisation de ceinture, Daniel Bryan avait envie de présenter une nouvelle ceinture à SmackDown cette semaine pour qu'elle ne soit plus faite de cuir, parce que voilà,
oui,
vegan
oui,
jusqu'au
oui.
bout des ongles. Alors du coup, il voulait faire une nouvelle ceinture, pas en cuir, un truc durable.
En chanvre.
Chanvre, peut-être, je ne sais pas. Donc, en tout cas, on voit là un qui risque de customiser sa ceinture.
Ah bah écoute, déjà, il a enlevé les plaques Yes, et ouais. Ils ont mis des plaques Daniel Bryan dessus. Donc on verra. C'est toujours sympa les customisations de ceinture, je trouve. C'est parfois raté visuellement, c'est parfois très moche, mais c'est toujours amusant de suivre l'évolution du look d'un titre.
Ouais, je suis d'accord.
Alors, il nous reste un match dans ce pay-per-view. Et quel match ? Triple Threat TLC match pour le SmackDown Women's Championship entre Becky Lynch, la championne, Charlotte Flair et Asuka, qui s'est un peu incrustée à la dernière minute, mais qui est tout à fait legit, à mon avis, pour être là, quoi. Je veux dire, elle n'a pas volé sa place. Hein. Contrairement à Charlotte, je trouvais qu'elle avait un peu volé sa place. Mais là, Asuka, je l'ai trouvé parfaitement légitime. Et donc, le match, bon, on va pas tout raconter, mais il y a des spots assez violents. Becky Lynch qui fait un leg drop depuis une échelle sur la table des commentateurs allemands. Charlotte qui fait une Swanton Bomb à Becky Lynch qui est sur une table. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Elles ont sorti le kendo stick qui est un peu emblématique de cette rivalité à 3. Puis arrive le moment où l'échelle, il n'y a plus que Charlotte debout et une échelle au milieu du ring avec la ceinture à décrocher. Charlotte commence à monter. Asuka se relève et vient la contrer, mais finit par tomber de l'échelle. Becky pose une seconde échelle, elle monte, Charlotte change d'échelle pour taper Becky, et là arrive l'overbooking, alias Ronda Rousey, qui vient, pousse l'échelle, fait tomber Charlotte et Becky, s'en va, et laisse le champ libre à Asuka, qui décroche la ceinture sous les hurrahs de la foule, qui était content de l'avoir gagnée. À noter que Ronda est repartie en coulisses, mais sous les huées de la foule, là, ils n'étaient pas contents de cette intervention. Et donc voilà, donc qu'as-tu pensé de ce match de la nouvelle championne, la japonaise Asuka, de l'intervention de Ronda Rousey qui n'a pas plu au public et de la suite qu'il va pouvoir y avoir à cette intervention?
Oh là là, bah là j'en ai pensé que du bien. C'était, ouais, j'ai trouvé ça génial. Main event de feu, c'est ce qu'on attendait de toute façon. C'était le match qu'on attendait. C'était le match qu'on attendait en pay-per-view. Ils l'ont fait et ça, ça c'est bien. C'est déjà un premier bon point parce que on n'est jamais sûr de rien. Je suis souvent le premier à tresser les louanges de la WWE, mais il faut reconnaître qu'ils sont quand même capables parfois de faire des choix un peu curieux. Cette fois, ils ont été sages. Ils ont mis ils ont mis le bon match en main event. Et puis, bah, de toute façon, on l'a vu tout de suite hein, quand les trois sont rentrés dans l'arène et que les tables ont commencé à se mettre en place, les échelles ont commencé à se mettre en place. C'est le match que le public avait envie de voir. C'était dans la digne lignée du dernier SmackDown où le public était debout à hurler devant les trois qui se foutaient sur la gueule. Bah, finalement, c'était exactement ce qui s'est reproduit en pay-per-view. Donc, c'est le main event. C'est la ceinture qui compte en ce moment. C'est la rivalité qui compte en ce moment. Donc, elles ont délivré hein, avec ce barbarisme qu'on fait parfois hein, mais enfin voilà elles ont délivré une nouvelle fois les trois j'ai pas de MVP ou de bonnet d'âne à décerner. Je trouve que les trois ont été super. Charlotte a été notamment incroyable de puissance encore et de folie là quand elle envoie son spear dévastateur là, elle coupe en deux Asuka là contre la barricade du timekeeper. C'était assez incroyable. Et puis même aussi son saut périlleux avant là quand sur la table sur Becky Lynch. Mais bon, les deux là c'est parce que c'est deux spots qui me reviennent de Charlotte, mais bon, de toute façon tout le monde a été vraiment au taquet. Et puis cette intervention de Ronda Rousey qui était bien vue, on l'attendait, mais je trouve que c'était bien. Alors par contre, c'est peut-être, allez, le seul petit grief que je peux avoir sur ce match, c'est que je trouve qu'elle était un poil cheap cette intervention.
Ouais.
C'est difficile de se dire que Ronda Rousey se contente en fait juste d'aller pousser une échelle. Je pense qu'elle aurait pu, foutre un petit Samoa Slam à l'extérieur du ring, une petite patate dans la tronche de Becky Lynch au passage, histoire de bien mettre sa marque et pas juste pousser son échelle. Après, le résultat aurait été le même, mais voilà, c'est juste la manière, je trouve, qui faisait peut-être un peu cheap. Mais sinon, à part ça, voilà, c'était bien vu parce qu'on l'attendait, cette intervention. Le monde s'arrête pas de tourner pendant les pay-per-view et pendant les matchs. Les rosters sont mêlés pendant les pay-per-view et il est grand temps quand même qu'on puisse enfin se servir de cette dynamique-là un petit peu. Un truc qui a été occulté pendant trop longtemps, je trouve.
Ouais.
C'était super, quoi. C'était intense, c'était fou. Moi j'ai kiffé. C'est des main events comme ça que je veux voir à la WWE. Je trouve que c'était parfaite utilisation de la stipulation. Et alors le vainqueur. Alors là, je suis à la fois sur le cul et en même temps pas surpris. Alors pour ceux, on en avait parlé à SmackDown aussi. Hein, on s'était dit bon bah voilà, ça va se jouer entre Asuka et Charlotte probablement. Charlotte serait le choix de la sécurité. Ça a été mon choix finalement parce que j'ai pas voulu croire finalement en la WWE à ce point-là. Mais non, ils l'ont fait et je trouve que c'est vraiment le meilleur choix qu'ils auraient pu faire. Parce que libérer Becky Lynch et Charlotte en vue du Royal Rumble me semble beaucoup plus malin, et donner une ceinture à Asuka c'est juste une superbe récompense et une superbe opportunité pour elle de remettre son empreinte sur la division féminine à la WWE. Donc je trouve que c'est win-win pour tout le monde ce résultat, et je suis très content qu'ils aient pressé la détente dans cette direction-là. Donc voilà.
Ouais, bah, je te rejoins pour dire que le match, il a été super, hein, honnêtement. Il y a peut-être juste un truc que j'y ai repensé après, mais je me suis dit, oh, c'est pas grave, c'est pour faire la fine bouche. Tu vois, c'était un TLC, mais ils ont pas vraiment utilisé les chaises. Ils ont sorti le kendo stick à la place. Bon,
ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Là, c'est juste pour faire la fine bouche, tu vois. C'est le, j'ai mon gâteau, j'ai ma chantilly.
Il manque la petite cerise.
Ouais, c'est ça. Mais voilà, non, mais c'était bien. Je l'avais senti venir également la victoire d'Asuka parce que, comme je disais sur le Discord en privé, enfin sur la partie organisation, ça permet
pas
de.
Les coulisses comme ça.
Ouais. Bon, quand on discute entre nous, c'est pas grave.
Oui, oui.
Je l'avais senti que du coup, en fait, faire gagner Asuka, ça permettait de libérer les deux autres d'un seul coup pour la suite. Avec ce main event de Mania annoncé, du coup, on serait déçu de ne pas avoir, là, honnêtement.
Là, ils ne peuvent plus passer à côté, de toute façon. Là, maintenant, la question sera de savoir, est-ce que ça va être l'une après l'autre contre Ronda Rousey, ou est-ce que ça va se finir en triple threat. En tout cas, l'intervention est bien, parce que c'est vrai qu'elle s'attaque aux deux, et elle prive les deux du titre.
C'est ça,
Donc, c'est ça qui est bien foutu, quoi.
Ça, et je te rejoins sur le fait que c'était un peu cheap, honnêtement. On aurait pu, ils auraient pu réussir à faire un petit peu plus, ça aurait pas gêné.
Elle aurait pu prendre un kendo stick et les rouster un peu, enfin je sais pas, faire.
Ouais, voilà, c'est ça. Exactement, ouais. Le kendo stick. Là, ça aurait été le bon moment de, pour elle de l'utiliser. Mais bon, c'est voilà, c'est vrai. Là, on est vraiment en mode fine bouche. On a un beau gâteau et on réclame un petit peu de trucs en plus. C'est du chipotage à ce point-là, à ce niveau-là. Et voilà. Donc et quant à la victoire d'Asuka, quant au fait que ce soit Asuka qui gagne, bah écoute, elle est legit, hein, je veux dire, elle est ultra over auprès du public. En même temps, les trois étaient over. C'était assez intéressant de se dire qu'il n'y avait pas vraiment de filles qui étaient détestées dans le paquet, que les trois avaient une bonne popularité, que les trois étaient légitimes.
Ah ouais, complètement.
Donc c'est voilà, il n'y avait pas de mauvais. En fait, c'est un match où il n'y avait pas force, il n'y avait pas de mauvais résultats. Possible. Je vois pas comment ils auraient pu faire un mauvais résultat. Non,
c'est vrai qu'on est un peu dans la configuration des tag teams de SmackDown. Ils envoient ce qu'ils ont de meilleur. Donc les c'est trois ça. Équipes ou les trois femmes là en l'occurrence sont ultra legit. Les trois peuvent porter la ceinture. Les trois sont over à divers degrés. En tout cas, mais suscitent des réactions du public, soit des huées, des hurrahs. Enfin bref, ils sont très over. Donc de toute façon, il n'y avait pas de mauvais résultats, comme tu l'avais dit. Il y aurait pu avoir une mauvaise manière, c'est tout, parce que il y aurait pu avoir des botches, il y aurait pu avoir un match un peu fade et tout. Mais bon, bah ils n'en a rien été puisqu'ils ont assuré à tous les niveaux. Mais ouais.
Voilà. Alors maintenant, la suite pour Asuka, bah, je pense de toute façon, il va y avoir le rematch de Becky Lynch,
ouais.
Qui devra arriver assez vite.
C'est ça. Ouais. Asuka qui s'est proclamé The Man sur YouTube, je crois, sur une petite vidéo.
Ah, ça, je ne l'ai pas vu, celle-là.
Ouais.
C'est assez rigolo. En même temps, ça part d'une logique. Elle a battu The Man, Becky Lynch, donc c'est elle, The Man, maintenant.
Eh oui.
C'est logique, hein. C'est bien. Le petit défaut que je verrais quand même à sa victoire, si je devais analyser en super profondeur, c'est que du coup, en fait, c'est pas sa victoire qui pose problème, qui va être un peu dérangeante, c'est le fait que ses deux meilleurs adversaires vont être hors de la course pendant un temps, parce oui. qu'elles vont être occupées ailleurs. Du coup, on risque d'avoir un début de règne un petit peu fade, parce que face à Asuka, qui est-ce qu'on va avoir? On va avoir Carmella, on va avoir Naomi, The Iconics, Lana, Zelina Vega et Mandy Rose et Sonya Deville. C'est pas les matchs qui me font le plus fantasmer, on va dire. Hein. En effet,
il faudra voir comment ils gèrent le règne d'Asuka avec une opposition voilà. un peu molle. Après, écoute, moi déjà, une petite rivalité entre Asuka et Sonya Deville qui ont prouvé par le passé, par exemple, qu'elles étaient, elles avaient une très très bonne alchimie dans le ring, ça peut être sympa. Après, c'est vrai que derrière les heels.
Oui, mais voilà, Sonya Deville, en fait, ça serait un peu le choix par défaut. C'est-à-dire, ça serait la meilleure de celles qui restent. C'est,
oui.
C'est ça qui me dérange un petit peu. C'est bon, on va faire avec, hein. De toute façon on est habitué, on n'a pas le choix, mais ça ouais. Tu vois, la cerise, en fait, elle est un peu pourrie. En fait, faudrait peut-être l'enlever.
Ah, écoute, on va voir ce que ça donne.
Ouais, et c'est en tout cas l'image qui concluait le show. Asuka triomphante sur l'échelle, la ceinture dans les mains. Alors, elle la levait pas au-dessus de sa tête, elle avait peut-être peur de tomber, mais Elle était toute à sa joie. Et les deux autres qui fulminaient de déception et de rage. Donc je pense que lors du Monday Night Raw, on devrait en avoir plus sur cette nouvelle rivalité à trois avec Ronda,
oui, parce que, du coup, Charlotte. La rivalité est vraiment à fond les ballons et elle s'étend sur deux émissions. Donc du coup, c'est ça qui est
ouais.
compliqué. Il va falloir des réponses.
Donc voilà. Ça va être l'heure pour nous également de conclure, donc ça va être le mot de la fin. Giscal, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Alors, ça va être un peu de l'impro, parce que c'est vrai que du coup, on fait cette review très tôt et je ne suis pas trop préparé.
Pour ceux qui nous écouteraient un peu plus tard, en fait, on est le lendemain du show. Hein,
il est 16h.
Il est 16h et Giscal a fini de regarder le show ce matin. On fait la réaction à chaud.
Et ouais, voilà le dévouement. Non mais mon top, écoute, je vais rester dans la lignée du main event et puis je trouve qu'elle le mérite. Alors je vais le donner aux femmes parce que je m'enflamme rarement pour du catch féminin. D'ailleurs, pour être très honnête, c'est pas du tout mon truc, le catch féminin. Mais enfin là, je ne peux que m'incliner face à une prestation comme ça. Enfin, c'est elles ont fait un tel spectacle et c'était tellement bien exécuté. Elles ont tellement emmené tout le monde que ça, c'était un vrai main event de pay-per-view. Ça, c'est un main event de catch et j'ai envie de leur dire bravo. Et même un top d'honneur à Asuka parce que vraiment. La réaction du public quand elle a grimpé l'échelle, tu sentais que tout le monde était super heureux et puis son sourire quand elle décroche la ceinture, franchement ça m'a fait super plaisir pour elle et elle le mérite bien. C'est pas un terme que j'aime beaucoup dans le catch, elle le mérite, mais enfin en tout cas là je trouve que elle, en tout cas s'il y en a une qui méritait, c'était elle. Ça fait plaisir de l'avoir gagné la ceinture. Donc voilà, je donnerai mon top aux filles et puis plus particulièrement à Asuka. Et puis bah mon flop, écoute mon flop, je pense que je vais le donner. Je vais le donner à qui mon flop? Je vais le donner à qui? C'est une bonne question. Bah écoute, je vais le donner. Ma grosse déception finalement, c'est un peu Dean Ambrose et Seth Rollins qui je trouve sont passés à côté du rendez-vous et pourtant ils avaient un sacré créneau avec presque 25 minutes de match et ils m'ont pas fait rêver. Ouais. À la hauteur de l'histoire qui sont censés raconter. Donc écoute, ce sera mon flop. Mais ma note, elle va être quand même très très bonne. Ça va être un 3,75 pour ce pay-per-view que j'ai trouvé. Écoute, si on m'avait dit avant l'émission que je verrais pas les 10 matchs, enfin les 12 matchs passés comme ça, je trouve que voilà, le pay-per-view était assez fluide. Ouais. Il n'y a pas vraiment eu de purge totale, ce qui est quand même assez surprenant sur 12 matchs. Il y a même plutôt eu un sacré paquet de bons matchs, hein. Il y a pas mal de matchs qu'on vous conseillera de regarder. Et puis ça, plus les petites promos backstage que tu as mentionnées pendant toute l'émission, écoute, j'ai trouvé que pour une fois, ils ont réussi à rendre 3h30, 4h, là, enfin, je sais pas combien de temps ça a duré, 3h30, plutôt digeste, même plus que digeste, plutôt agréable. Donc je vais donner 3,75. Ouais.
D'accord. Écoute, je vais te rejoindre sur la note parce que. Comme toi, j'ai été emballé par quasiment tous les matchs, à part peut-être une ou deux déceptions, mais bon, c'était pas la mort non plus, hein, on va pas se mentir. Comme toi, j'ai pas vu le temps passer, même si à la fin, je vous garantis que j'étais super fatigué, il était 5h du matin, j'en pouvais plus, j'avais l'impression d'être jet-lagué en fait, et tout, enfin bref. Et, mon top, un peu comme toi, je vais le donner aux filles. Et au fait que, pour une fois, en fait, c'était un événement qui, ils n'arrêtent pas de le marteler. On écrit l'histoire. Ah bah là, si c'est une histoire comme ça, j'en veux plus souvent. Oui, là, je suis d'accord. Parce que ça faisait pas artificiel, ça faisait plus organique. On était bien pris dans le truc. Je me souviens quand ils avaient dit la première fois, elles vont faire l'histoire, c'était le Hell in a Cell entre Charlotte et Sasha Banks. Ah, ça faisait. Ouais, ok, elles font l'histoire parce que c'est la première fois, mais c'est pas super. Là, c'était super. La victoire d'Asuka me convient très bien. J'avais voté Becky parce que je vote Becky Lynch de toute façon tout le temps. Je suis fidèle à Becky Lynch dans ce domaine.
Elle te le rendra un jour.
J'espère bien. Mon flop, moi, je vais le mettre en fait sur la. Peut-être une mauvaise utilisation des stipulations.
C'est une bonne idée.
C'est un peu ce qui nous est revenu, c'est qu'il y a certains matchs à stipulation, la stipulation n'était peut-être pas obligatoire. Et d'autres matchs sans stipulation, on s'est dit, avec une stipu, ça aurait peut-être été meilleur. Le Ambrose Rollins, clairement, on met une stipulation de chair match, il s'envoie des chaises dans la truffe pendant 20 minutes, c'est nettement meilleur. Le WWE Championship que j'ai un peu moins aimé que toi, ils mettaient un ladder match, c'était meilleur aussi. Mais voilà, c'est peut-être un mauvais choix de stipulation, un mauvais choix de positionnement des stipulations. Et ma note, donc comme je disais, 3,75, oui, moi aussi, pas de problème. Un bon pay-per-view, un bon cru. On finit l'année 2018 à la WWE. Sur un feu d'artifice avec plein de possibilités pour la suite. Et voilà, ça donne envie de voir ce qui va se passer dans les Raw et les SmackDown, et puis d'aller jusqu'au Royal Rumble, et puis du Rumble jusqu'à Mania, sans problème.
Yes, ouais, je suis bien d'accord.
Alors, on va passer à l'autopromo. Donc, nous sommes en audio sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify. Nous sommes d'habitude en vidéo sur YouTube, mais là, pour le coup, on avait envie de réagir à chaud, donc on a dit tant pis pour la vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur Discord. Les liens vont être dans la description de la vidéo YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Ketchup CDC, sur Instagram, sur Twitter, @KetchupCDC. Je crois que j'ai rien oublié, Giscal.
Écoute, non, je pense que tu as tout dit.
Voilà, donc mon bon Giscal. Alors, n'oubliez pas, donc cette semaine, on aura, comme d'habitude, le supplément SmackDown pour SmackDown et la review de Monday Night Raw qui arriveront plus tard dans la semaine. On vous tiendra au courant. Abonnez-vous pour avoir les dates de diffusion. Et si on le fait en live, participez avec nous si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager autour de vous. Hein. Plus on est nombreux à discuter de catch, mieux c'est, je trouve, en tout cas, de mon point de vue.
Oui, je suis bien d'accord.
Mon bon Giscal, je te remercie d'avoir fait cette review avec moi.
Ah bah écoute, c'était un plaisir et je te remercie de l'avoir présenté.
Mais de rien.
Au pied levé.
Ah bah, j'étais chaud. Alors là, j'étais ultra motivé. Voilà, j'ai pas dormi beaucoup ce matin, mais honnêtement, ça me dérangeait pas. Alors quand c'est sur des pay-per-view comme ça me dérange pas. Je vous dis à tous à la prochaine pour plus de catch. Et d'ici là, bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao.
Allez, ciao, ciao.